Les grandes espérances, deuxième partie, chapitre 23. De la petite Bretagne, je me rendis avec son bon dans ma poche chez le frère de Miss Kiffins, le comptable. Et le frère de Miss Kiffins, le comptable, alla tout droit chez Clarica et me ramena Clarica. J'eus donc la grande satisfaction de terminer à mon gré l'affaire d'Herbert. C'était la seule bonne chose et la seule chose complète que j'avais faite depuis le jour où j'avais conçu mes grandes espérances. Clarica m'apprit en cette occasion que les affaires de sa maison progressaient rapidement, qu'il pouvait maintenant établir une petite succursale en Orient, ce qui était devenu très nécessaire pour l'extension des affaires, et qu'Herbert, dans sa nouvelle situation d'associé, irait la surveiller. Je vis que je devais me préparer à me séparer de mon ami avant même que mes propres affaires fussent en meilleur état. Et alors, je crus réellement sentir que ma dernière ancre de salut perdait de sa solidité et que j'allais bientôt devenir le jouet des vagues et des vents. Mais je trouvai une récompense dans la joie avec laquelle Herbert rentra le soir et me fit part de son bonheur, s'imaginant peu qu'il ne m'apprenait rien de nouveau. Il esquissait des tableaux imaginaires, il se voyait conduisant Clara Barley dans le pays des mille et une nuits, et j'allais les rejoindre avec une caravane de chameaux, je crois, et nous remontions le Nil en voyant des merveilles. Sans m'exagérer la part que j'avais dans ces brillants projets, je sentais qu'Herbert était en bonne voie de réussite et que le vieux Bill Barley n'avait qu'à bien s'attacher à son poivre et à son rhum pour que sa fille ne manquât bientôt plus de rien. Nous étions maintenant en mars. Mon bras gauche, quoique ne présentant pas de mauvais symptômes, fut long à guérir. Il m'était encore impossible de mettre un habit. Ma main droite était passablement rétablie, déformée, il est vrai, mais faisant parfaitement son service. Un lundi matin, pendant que Herbert et moi nous déjeunions, je reçus par la poste cette lettre de Wemmick. Walworth, brûlez ceci dès que vous l'aurez lu. Au commencement de la semaine, mercredi par exemple, vous pourriez faire ce que vous savez si vous vous sentiez disposé à l'essayer. Brûlez. Quand j'eus montré cette lettre à Herbert et que je l'eus mise au feu, pas avant pourtant de l'avoir tous deux apprise par cœur, nous songeâmes à ce qu'il fallait faire, car bien entendu, on ne pouvait se dissimuler maintenant que j'étais incapable de rien faire. « J'y ai bien réfléchi, » dit Herbert, « et je pense connaître un meilleur moyen que de prendre un batelier de la Tamise. Prenons Startop. C'est une main habile. Il nous aime beaucoup. Il est honorable et dévoué. J'y avais songé plus d'une fois, mais que lui direz-vous, Herbert ? Il n'est pas nécessaire de lui en dire beaucoup. » Laissons-le supposer que c'est une simple fantaisie, mais une fantaisie secrète, jusqu'à ce que le jour arrive. Alors, vous lui direz qu'il y a d'urgentes raisons pour embarquer et éloigner Provis. Vous partez avec lui ?
Sans doute.
Où cela ?
Il m'avait toujours semblé, dans les différentes réflexions inquiètes que j'avais faites sur ce point, que le port où nous devions nous diriger importait peu, que ce fût à Hambourg, Rotterdam ou Anvers, la ville ne signifiait presque rien pourvu que nous fussions hors d'Angleterre. Tout steamer étranger que nous trouverions sur notre route, qui consentirait à nous prendre, ferait l'affaire. Je m'étais toujours proposé en moi-même de lui faire descendre en toute sûreté le fleuve dans le bateau et certainement au-delà de Gravesend, qui était un lieu critique pour les recherches et les questions, si des soupçons s'étaient élevés. Comme les steamers étrangers quittent Londres vers l'heure de la marée, notre plan devait être de descendre le fleuve par un reflux antérieur et de nous tenir dans quelque endroit tranquille jusqu'à ce que nous puissions en gagner un. L'heure où nous serions rejoints, n'importe où cela serait, pouvait être facilement calculée en se renseignant d'avance. Herbert consentit à tout cela et nous sortîmes immédiatement après déjeuner pour commencer nos investigations. Nous apprîmes qu'un steamer pour Hambourg remplirait probablement au mieux notre but et c'est principalement sur ce vaisseau que nous reportâmes nos pensées. Mais nous prîmes note que d'autres steamers étrangers quitteraient Londres par la même marée, et nous nous félicitâmes de connaître la forme et la couleur distinctive de chacun d'eux. Nous nous séparâmes alors pour quelques heures, moi pour me procurer de suite les passeports qui seraient utiles, Herbert pour aller trouver Startup. Nous fîmes tous deux ce que nous avions à faire, sans aucun empêchement, et quand nous nous retrouvâmes à 1 heure, tout était fait. J'avais, de mon côté, fait préparer les passeports, Herbert avait vu Startup, et celui-ci était plus que prêt à se joindre à nous. Ils devaient manœuvrer chacun avec une paire de rames, et moi, je tiendrais le gouvernail. L'objet de mes soins devait rester assis et se tenir tranquille. Comme la vitesse n'était pas notre but, nous ferions assez de chemin. Nous convînmes qu'Herbert ne rentrerait pas dîner avant d'aller au moulin du bord de l'eau ce soir, qu'il n'irait pas du tout le lendemain soir, mardi, qu'il avertirait Provis de descendre par un escalier le plus près possible de la maison, mercredi, quand il nous verrait approcher, et pas avant, que tous les arrangements avec lui seraient terminés ce lundi soir, et qu'on ne communiquerait plus avec lui d'aucune manière avant de le prendre à bord. Ces précautions, bien convenues entre nous deux, je rentrais chez moi. En ouvrant la porte extérieure de nos chambres avec ma clé, je trouvai dans la boîte une lettre à mon adresse, une lettre très sale, bien qu'elle ne fût pas mal écrite. Elle avait été apportée, pendant mon absence, bien entendu, et voici ce qu'elle contenait. « Si vous ne craignez pas de venir au Vieux Marais, ce soir ou demain soir à 9 heures, et de venir à la maison de l'éclusier, près du four à chaud, je vous conseille d'y venir. Si vous voulez des renseignements sur votre oncle Provis, venez, ne dites rien à personne, et ne perdez pas de temps. Vous devez venir seul. Apportez la présente avec vous. » J'avais déjà un assez grand fardeau sur l'esprit avant la réception de cette étrange missive. Que faire après? Je ne pouvais le dire. Et le pire de tout, c'est qu'il fallait me décider promptement où je manquerais la voiture de l'après-midi qui me conduirait assez à temps pour le soir. Je ne pouvais songer à y aller le lendemain soir, c'eût été trop rapproché de l'heure de notre fuite. Et puis, l'information promise pouvait avoir quelque importance pour notre fuite elle-même. Si j'avais eu plus de temps pour réfléchir, je crois que je serais parti de même. Ayant à peine le temps de réfléchir, car ma montre me disait que la voiture allait partir dans 1 demi-heure, je résolus de quitter Londres. Je ne serais certainement pas parti sans les mots ayant rapport à mon oncle Provis. Mais cette lettre étant arrivée après la lettre de Wemmick et les préparatifs du matin, je me décidai. Il est si difficile de comprendre clairement le contenu de n'importe quelle lettre quand on est fortement agité que je dus relire la mienne 2 fois avant que la recommandation de ne rien dire à personne pût entrer machinalement dans mon esprit. Je laissai un mot au crayon pour Herbert où je lui disais que devant partir bientôt et ne sachant pas combien de temps, j'avais décidé d'aller et de revenir en toute hâte pour m'assurer par moi-même comment Miss Havisham se trouvait. J'eus, après cela, tout juste le temps de mettre mon manteau, de fermer notre appartement et de gagner le bureau des voitures par le plus court chemin. Si j'avais pris une voiture de place et passé par les rues, j'aurais manqué mon but. En allant à pied, j'arrivai à la voiture au moment même où elle sortait de la cour. Quand je revins à moi, je me trouvai le seul voyageur cahoté dans l'intérieur et j'avais de la paille jusqu'aux genoux. Je n'avais pas été réellement moi-même depuis la réception de la lettre, tant elle m'avait troublé, arrivant après la presse et les tracas du matin qui avaient été énormes, car, après avoir désiré et longtemps attendu Herbert avec inquiétude, son avis était à la fin venu comme une surprise. Et maintenant, je commençais à m'étonner de me trouver dans une voiture et à douter si j'avais des raisons suffisantes pour m'y trouver et à considérer si je n'allais pas descendre et m'en retourner et à trouver des arguments pour ne jamais céder à une lettre anonyme. en un mot, à passer par toutes les alternatives de contradiction et d'indécision auxquelles, je le suppose, peu de gens agités sont étrangers. Cependant, la mention du nom de Provis l'emporta sur tout. Je raisonnais, comme j'avais déjà raisonné, si cela peut s'appeler raisonner, que, dans le cas où il lui arriverait malheur, si je manquais d'y aller, je ne pourrais jamais me le pardonner. Nous arrivâmes à la nuit close, et le voyage me parut long et fatigant, à moi, qui ne pouvais voir que peu de choses de l'intérieur où j'étais, et qui, vu mon état impotent, ne pouvais monter à l'extérieur. Évitant le cochon bleu, je descendis à une auberge de réputation moindre, en bas de la ville, et je commandai à dîner. Pendant qu'on préparait mon repas, je me rendis à Satis House et m'informai de Miss Havisham. Elle était encore très malade, quoique regardée comme un peu mieux. Mon auberge avait autrefois fait partie d'un ancien couvent et je dînais dans une petite salle commune octogonale, comme celle des fonts baptismaux. Comme il m'était impossible de couper mes aliments, le vieil aubergiste le fit pour moi. Cela engagea la conversation entre nous. Il fut assez bon pour m'entretenir de ma propre histoire, en y ajoutant, bien entendu, le fait, devenu populaire, que Pumblechook avait été mon premier bienfaiteur et le fondateur de ma fortune. « Connaissez-vous ce jeune homme ? » dis-je. « Si je le connais, » répéta l'aubergiste, « depuis le temps où il était tout petit. » « Revient-il quelquefois dans le pays ?»« Oui, il revient, » dit l'hôtelier, « chez ses grands amis de temps en temps. » Et il est froid pour l'homme qui l'a fait ce qu'il est.
Pour quel homme?
Celui dont je veux parler, dit l'hôtelier. Monsieur Pumblechook.
Est-il ingrat pour d'autres?
Sans doute. Il le serait s'il le pouvait, répondit l'hôtelier. Mais il ne le peut pas.
Et pourquoi?
Parce que Pumblechook a tout fait pour lui.
Est-ce que Pumblechook dit cela?
S'il dit cela, répéta l'hôtelier, il n'a pas besoin de le dire.
« Mais le dit-il ?»«
Oh, cette affaire de venir le sang d'un homme blanc comme du vinaigre, de l'entendre le raconter, monsieur !» dit l'aubergiste.
Et pourtant, pensais-je en moi-même, « Joe, cher Joe, tu n'en parles jamais, toi. Joe, affectueux et indulgent, tu ne te plains jamais, toi. Ni toi non plus, charmante et bonne Biddy.
Votre appétit se ressent de votre accident ?» dit l'aubergiste en jetant les yeux sur le bras qui était bandé sous mon paletot. « Essayez d'un morceau plus tendre. »«
Non, merci, » répondis-je en quittant la table pour m'approcher du feu.
« Je ne puis manger davantage. Veuillez enlever tout cela. »
Je n'avais jamais été frappé d'une manière plus sensible de mon ingratitude envers Joe que par l'imposture effrontée de Pumblechook. Le faux, c'était lui. Le vrai, c'était Joe. Le plus vil, c'était lui. Le plus noble, c'était toujours Joe. Je me sentis profondément et très injustement humilié quand je songeais devant le feu pendant une heure et plus. Le bruit de l'horloge me réveilla, mais non de mon abattement et de mes remords. Je me levai, fis agrafer mon manteau sous mon cou et sortis. J'avais d'abord cherché dans ma poche la lettre afin de m'y reporter de nouveau, mais je ne pus la trouver. J'étais contrarié de penser qu'elle avait dû tomber dans la paille de la voiture. Je savais cependant très bien que le lieu indiqué était la petite maison de l'éclusier, près du four à chaux, dans les marais, et à 9 heures. C'est donc vers les marais que je me dirigeais directement, car je n'avais pas de temps à perdre.